Vous êtes sur Onda Bulle 93.3, Radio Clermont, Radio Campus. Il fait chaud, il fait très très chaud. Nous sommes à la Japan Expo. Comment vas-tu, Tony ?
Ça va très bien.
Je suis avec Tony Valente, je ne t'ai même pas présenté comme il faut, mais c'est pas grave, on est rock'n'roll, voilà. Et de toute façon, on se connaît bien puisque c'est la deuxième fois que je t'interview.
Oui, c'est la deuxième fois que tu m'interviews et ça fait quelques fois qu'on se voit aussi, qu'on se croise.
On se connaît plutôt bien. Et oui, donc la première fois, c'était il y a 3 ans, et donc c'est une première pour Onda Bulle. C'est la première fois qu'on réinterview un auteur, donc après une première fois. Et il faut dire que tu n'as pas chômé quand même depuis 3 ans.
Oui, c'est vrai. Je pense que depuis 3 ans, il y a quoi ? Il y a 6 tomes qui sont sortis ou non ?
J'avais compté 5, ouais.
5, oui, 5, c'est ça.
En fait, ton objectif, c'est de rendre jaloux tous les autres mangaka.
Non, c'est me faire plaisir. Et après, si ça rend jaloux des gens, c'est bonus. Mais... Non, je ne suis pas le seul à être à ce rythme-là.
Mais voilà, le fait est que donc depuis 3 ans, donc pas mal de choses ont changé. Tu as eu un succès assez phénoménal, j'ai l'impression, avec Radiante. Et notamment, on a eu pas mal de buzz avec l'idée, le fait que l'album a été traduit en japonais. Est-ce que c'est pour toi l'événement qui a vraiment marqué ces 3 dernières années, ou est-ce que tu as d'autres événements à mettre en avant ?
C'est sûr que la sortie au Japon, ça a été une grosse surprise. Ça a fait fonctionner le bouche à oreille qui était déjà bien présent, mais ça a sûrement encouragé la démarche. Moi, tout simplement, le fait que la série dépasse 3 tomes, c'était déjà super. Je suis genre ceinture noire 3e dan en échec de série. Alors arriver avec Radiant et me dire mais écoute, je vais faire une série. Je me dis de toute façon, puisque ça marche de moins en moins, Radiant marchera encore moins, ce qui fait que je vais en vendre 400 puisque c'était à peu près les chiffres des derniers trucs que j'avais sortis. Je me dis c'est pas grave, du coup s'il n'y a personne qui me lit, autant que je me fasse au plaisir au maximum, comme si j'étais tout seul. Donc j'y vais. Donc déjà, premier bonus, c'est on en fait plus que 3. Ah d'accord, dès le tome 1, ça ils m'ont dit. Dès le tome 1, a priori, vu comme ça va, à moins qu'il y ait une grosse catastrophe quelque part, vu comme ça va, tu en fais autant que tu veux. Et ils ont tenu leur promesse. Arrivé au tome 3, ils disaient non mais vraiment il faut continuer parce que ça va trop bien. Et après, donc après 3 tomes, voilà les étrangers qui commencent à nous contacter. Donc encore nouvelle surprise, ah ça intéresse les étrangers. D'abord les Polonais, qui finalement ont signé très récemment, mais d'abord c'est passé par la Pologne et l'Espagne. Et après le Japon s'est mis, c'est finalement au Japon que c'est sorti en premier. Mais tout ça est arrivé à peu près en même temps, le fait d'avoir vraiment l'intérêt des pays, d'autres pays en fait, tout simplement pour le manga. Et moi ça me rendait foufou, c'était sûr, je me dis putain, il y a des Espagnols qui vont me lire, des Italiens, des Polonais, tout ça, des Japonais, c'est première pour moi, je pouvais pas m'y attendre puisque il n'y avait pas de modèle genre, ah ben lui il l'a fait, je vais essayer de le faire ou quoi, c'était vraiment la grosse surprise. Donc c'était vraiment trop bien, mais la plus grosse surprise pour moi, c'est de regarder comment ça marche aujourd'hui, l'engouement qu'il y a dans le festival, l'engouement même d'une manière générale qu'il y a pour les mangas français maintenant aujourd'hui. Il y a 5 ans, c'était plus compliqué, sauf pour Dreamland qui existe depuis super longtemps, mais sinon c'était plus compliqué. Aujourd'hui, se balade à Japan Expo, il est difficile de ne pas voir des mangaka français en train de décasser. Et ça, c'est trop bien. Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'on a désormais un vrai public qui suit le manga français et qui va, j'espère, continuer à se développer.
C'est sûr, ça a l'air, en tout cas.
Donc tu es désormais au service d'une série donc, qui a trouvé son rythme. Et d'ailleurs, c'est très impressionnant puisque tu sors quasiment 2 albums par an, si j'ai bien calculé.
Ouais.
Et justement, comment se passent ces journées est-ce qu'en 3 ans, justement, tu as vraiment réussi à planifier ton rythme, ou est-ce que tu improvises finalement encore au jour le jour?
J'ai changé beaucoup de choses depuis le début. J'ai, par exemple, un des trucs qui m'a fait gagner du temps, puisque je voulais gagner du temps pour en faire 2 par an. Ce qui est la troisième année où je vais en faire un deuxième dans l'année, un pour décembre. Je me disais, il faut couper des choses, je ne vais pas couper la vie de famille. Ce que je fais, je coupe Internet. Donc j'arrête, a priori, les réseaux sociaux. Je m'en sers comme d'une vitrine quand je fais quelque chose, quand il y a quelque chose qui sort ou un événement, je l'annonce. Mais sinon, je n'y suis plus présent pour répondre aux gens. Ça me faisait plaisir de le faire, mais c'était hyper chronophage. Et je me disais, si je veux être présent, d'abord... C'est en tant qu'auteur, je veux parler avec les lecteurs, c'est un bonus. Mais le premier truc que je veux, c'est qu'ils aient de la matière à lire, parce que moi, je veux raconter. Donc le choix s'est fait, tout simplement. C'est ça, ou garder Internet et en faire un par an, ou alors enlever les réseaux sociaux, plus répondre à personne, m'enfermer dans ma bulle, et éventuellement en faire 2, voire plus bientôt par an. Et j'ai essayé ça. J'essaie d'accélérer encore le rythme pour mon propre plaisir. Hein. C'est Ankama, au début, ils m'ont dit non, calme-toi, on va pas se tuer à la tâche, ça marche bien, avance tranquillement et tout. J'ai dit non, 2. 2 par an. Et donc, cette année, a priori, il y en aura un deuxième. Mais c'est vraiment surtout Internet qui m'a aidé. Et puis après, juste le fait de devoir cadrer. J'ai deux deadlines dans l'année. Si je foire, ça foire les deux, c'est compliqué. Ouais. Pour exister à l'étranger aussi, c'est très compliqué. Si j'en fais pas deux par an, bah, moi, à l'étranger, Radiant, il se bat avec n'importe quel shonen, en fait. Et alors qu'en France, il y a une grosse... de gros projecteurs qui sont mis dessus quand je me déplace quelque part. Il y a le côté cocorico, tu sais, on a un mangaka français et tout, et on est tous assez bien accompagnés en tant que mangaka français par la presse et tout. Donc ça va assez bien pour la France, pour l'exposition. À l'étranger, bah, l'exposition, c'est quoi? C'est, bah, il faut en faire deux par an, au moins, sinon c'est foutu. Ouais.
Tu te retrouves pour ces ventes directement en concurrence avec le Japon?
Ouais, entre autres, c'est ça.
C'est bien que Radiant, c'est bien mieux que One Piece et les autres.
Oulala, alors là, sur moi ça marche pas, déjà. Mais merci.
Écoute, plus sérieusement, justement, tu es désormais... tu as pu établir en tout cas vraiment l'univers et les personnages, ils sont vraiment ancrés. Tu disais tout à l'heure que c'était un peu un coup de poker, en fin de compte, l'écriture de Radiant, mais c'était des personnages que tu traînes depuis déjà très longtemps, je crois.
Il y a dans Radiant plein d'ingrédients que je me traîne depuis longtemps. C'est juste que j'ai cristallisé ça dans un projet au moment où j'ai fait Radiant, mais tout le set, je l'avais fait pas beaucoup d'années avant de commencer, et il s'est transformé au fur et à mesure, et j'étais pas sûr d'en faire quelque chose un jour, mais j'ai aujourd'hui d'autres choses qui me traînent en tête qui peut-être dans 15 ans donneront une série de la même manière. C'est juste au bout d'un moment, je dis, ah, tous ces ingrédients, je vais faire une salade avec, et c'est parti, ça va être Radiant. Ouais.
Parce que c'est ça justement un des secrets de Radiant, le fait que tu as des personnages que tu vis déjà depuis très longtemps et qui forcément ont une écriture qui les rend aussi très, très tangibles pour le lecteur.
Peut-être. C'est sûr que je prends le temps de les travailler dans ma tête avant de les mettre. Un personnage qui apparaît au tome 5, Oko, et un personnage qui devait apparaître dès la première page du tome 1 déjà. D'accord. Mais j'étais pas sûr de la mettre assez en valeur pour ce que je voulais raconter avec elle, et donc j'ai préféré attendre jusqu'au tome 5, c'était long, et après je me suis dit, bon, là c'est le bon moment, c'est parti. Et ça, c'est clair que je le fais pour plein d'éléments, des éléments qui paraissent dans le tome 7 sur l'univers, que je voulais raconter dès le début, le mot Fantasia pour la magie, me dire, un jour je vais donner cette explication-là, parce que c'est hyper important pour pourquoi j'ai créé l'univers, pourquoi je parle d'imagination et de gens qui veulent empêcher l'imagination, tout ça. C'est ça la magie dans mon univers, mais il fallait mettre des mots dessus à un moment donné, mais il fallait que les gens soient aussi habitués à... quel est le concept de l'univers, la magie. Donc il fallait prendre le temps, et j'espère que ça passe tout seul à la lecture. Moi, je range mon frein pour donner pas trop d'informations au fur et à mesure. J'ai l'impression des fois d'en faire trop, mais bon, l'univers est très établi dans ma tête, il est très concret pour moi. Ma démarche, c'est d'essayer de le rendre le plus concret possible, au travers surtout de persos vivants. Ouais, c'est ça. Donc si ça marche, c'est super.
En tout cas, sur beaucoup de gens, ça a marché, sur moi aussi. Et voilà. Justement, ce qui démarre peut-être Radiant des autres shonen, c'est que les thématiques sont moins manichéennes. En tout cas, dans tous les cas, on peut trouver des personnages, certainement parce qu'ils ont été écrits en amont, comme tu as pu le dire, qui vont avoir une empathie et qui vont créer de l'empathie avec le lecteur. Je pense que c'est aussi un des intérêts de Radiant, et je pense que c'est une des réflexions que tu as dû avoir au début quand tu as commencé à créer l'univers.
C'est sûr que je suis pas très porté sur le manichéisme dans la vie et dans les histoires, mais par contre je suis pas d'accord avec le fait que ça ressemble pas aux autres shonen, parce que moi ce que je trouve d'incroyable dans les shonen, c'est qu'ils arrivent à faire ça et qu'ils le font super bien. One Piece, je trouve pas que ce soit manichéen, et même si t'as des persos qui sont foncièrement méchants, ils donnent toujours une raison à ce qui a amené ça, et on est toujours à un moment donné en empathie avec le méchant, et du coup bah, il est plus méchant pour nous. Je dis d'accord, il fait son histoire, Luffy c'est son ennemi, il veut le tuer. Bon, mais je préfère Luffy quand même, donc je vais rester du côté de Luffy. Mais a priori, même dans Naruto, c'est incroyable le nombre de personnes qui retournent leur veste, pas parce qu'ils deviennent gentils, c'est juste qu'à un moment donné, ils se font comprendre par le lecteur, parce qu'ils se font comprendre par le héros. Naruto, quand il retourne Gaara, c'est un des trucs pour moi les plus incroyables dans la série Naruto. C'est fou, ce perso qui paraît si méchant depuis le début, et d'un coup on se dit, mais non, il n'est pas méchant, on l'a pas compris. Et je vais vous raconter pourquoi. Et ça, moi, ça me met des frissons, tu sais. Et j'essaie, à mon humble niveau, de mettre ça en place avec mes héros. Je lui dis, mes héros, c'est les héros de leur aventure, qui dit que le méchant en face, il n'a pas tout aussi raison. Et si on prend son parti, on se rend compte que c'est pas tout noir, tout blanc, c'est plein de nuances de gris au milieu. Bah, je vais essayer de mettre le doigt sur celle-ci aujourd'hui, et je vais raconter. Et ça m'intéresse. Et ça, je trouve que dans les shonen japonais, c'est incroyable, quoi.
c'est plus dans les nuances finalement, dans les camps à proprement parler, où il y a les camps qui s'opposent de l'un à l'autre. Et c'est ce qui va vraiment, en fin de compte, donner de l'empathie à un personnage d'autre, c'est sa bonne volonté ou pas d'essayer de comprendre le monde qui l'entoure, c'est un peu ça finalement.
C'est sûr, ouais, tu mets le doigt dessus. Essayer de comprendre et de faire comprendre à la fois au lecteur pourquoi les d'autres personnes peuvent se comporter différemment, croire des choses différentes, et pour autant on n'est pas obligé de se foutre le poing sur la gueule, mais on peut tendre la main. C'est une des leçons de Sangoku même. Sangoku, à chaque fois qu'il a un méchant face de lui, à un moment donné, il lui tend la main, c'est pas pourquoi. Puis bon, bah, il se rallie tous à sa cause à un moment donné. C'était quand même un truc de faire ça. Je trouve c'est foufou. Et finalement, à l'époque où ça a été fait, c'est assez nouveau. Hein. Maintenant, ça paraît assez évident dans plein d'histoires que ça se fait, mais c'est vraiment... Bah, c'est fascinant à tous les niveaux quand ça arrive pour moi. Une des grosses leçons des dernières années, c'est Game of Thrones. Tous les méchants paraissent hyper méchants jusqu'au moment où on arrive à eux en disant il reste plus de gentil, est-ce que lui il est pas un peu gentil? En fait oui, il est super gentil par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre. Et c'est, par rapport à l'un, ils peuvent être méchants, par rapport aux autres, ils peuvent être gentils. Tout dépend du point de vue. Et dans Jaime Lannister, dans Game of Thrones, qui passe pour un méchant au début et après, je dis, attends, finalement le mec il a essayé de sauver tout le monde. Ouais, ça c'est vraiment bah, c'est assez contemporain maintenant, c'est assez étendu dans plein d'œuvres, c'est assez fascinant pour moi aussi. J'essaie de m'y employer aussi.
On comprend que tu puisses tes influences justement un peu dans toutes tes lectures et tout ce que tu regardes, mais également j'ai l'impression que très souvent, de par les noms que tu donnes à tes personnages, qui sont vraiment des références aussi historiques ou autres, par exemple, bon, tu as évoqué déjà le cas de Okao, par exemple, dans les questions que tu poses, dans les questions que les lecteurs te posent. Boadice également est une reine celte, donc voilà. Et beaucoup des univers que tu vas utiliser des noms de personnages qui font référence donc à quelque chose. Et c'est pas innocent, puisque quand on regarde un peu la nature des noms que tu choisis, souvent, ils correspondent un peu aussi à la nature du personnage, non ?
Oui, mais souvent ça vient de... Je lis un truc sur un personnage, genre je lis quelque chose sur Boadice, je suis fasciné complètement, je me dis, cette héroïne-là, elle est incroyable, je sais pas pourquoi j'ai pas appris sur elle en cours d'histoire, tu sais. Je me dis, je veux l'apporter au lecteur, si ils veulent se gratter la tête avec et aller chercher, googliser tout ça, ils vont découvrir un perso incroyable. Mais du coup, moi elle me fascine, je vais en faire un perso, bah, je l'appelle Boadice, c'est parti, en plus ça fait Queen Bee, elle est énorme, elle a les cheveux qui volent dans le vent, et je me dis, non mais c'est trop bon. Et d'abord ça part la fascination que moi j'ai pour des persos ou pour un type d'histoire, et après je me dis, ouais, j'ai envie de l'incorporer à mon univers. Et finalement je me rends compte au fur et à mesure, quand on fait de la fantasy, c'est que moi, mon auteur préféré en roman fantasy, c'est Robin Hobb. Elle, ses persos s'appellent Vérité, Royal, machin, c'est des noms qui correspondent à la personnalité qu'ils ont. C'est très simple, on les retient. Moi, je ne retiens jamais les noms. Je connais tous les noms des persos qu'il y a dans les Robin Hobb, parce que c'est des trucs qui sont, culturellement, tu dis, ça me parle. Et même quand elle invente un nom, elle fait en sorte que bah, ça sonne hispanique, ou alors ça sonne... Ça, je trouve que c'est une bonne démarche d'avoir quelque chose qui où tu n'as pas mis 4 syllabes et 15 consonnes, juste pour dire c'est exotique, tu vois. Y a assez de choses dans la culture... Moi, c'est la culture européenne que je prends à fond. On a assez de choses dans la culture européenne pour graviter autour, tu sais, pour enrichir tout ce qu'on fait. La fantasy, même si elle a abordé plein de trucs, on est loin d'avoir épuisé un milliard de choses qui existent. Tiens, on va dans n'importe quel village en France, tu trouves des légendes propres au village, des fois propres au coin de rue. Où, on peut en faire partout, des trucs comme ça. Et n'importe quel pays du monde a ses propres lutins, ses propres faits, les interprétations. Bon, tout ça, je me dis... Bon, c'est bon, ça existe. On n'a qu'à puiser, l'enrichir par notre expérience et ce qu'on veut en faire nous dans l'histoire. Et après, le livreur lecteur en disant, moi j'adore ça, regardez un peu, pareil, le nom des chevaliers de la table ronde, je voulais mettre en scène Merlin, je voulais mettre en scène un sorcier légendaire qui fasse un peu office de Messie, sans parler de religion pour autant, mais genre il y a eu un héros et ils se vouent tous à ce héros-là, moralement, dans leurs actes au quotidien. Je me suis dit, ça m'intéresse de faire un sorcier celte, tout ça. Puis finalement, Merlin, c'est la meilleure figure, tout le monde le connaît. Partout, il a été interprété plein de fois. Je me suis dit, comment je peux l'interpréter différemment? Et bon, ben voilà ce que j'en fais. Il n'y a pas encore les révélations dessus, mais voilà ce que moi j'en fais. J'ai cherché autour, je me suis dit, hey, c'est vrai qu'il y a la table ronde autour. Il y a des persos très charismatiques, très affirmés déjà, très archétypaux. Je vais les utiliser aussi. Ça parle de Celtes, mais il y a cette héroïne qui m'a fasciné, Boadice. Je vais en parler. Et en plus, ça a enrichi mon histoire. Quand j'ai découvert Boadice, je me suis dit, les inquisiteurs font un truc qui ressemble à ce que faisaient les Romains à Boadice à l'époque. Je vais le mettre en place. Ouais, ils faisaient des colonies en Grande-Bretagne. Mes inquisiteurs veulent se poser avec les barons. Et on va y aller.
Quart d'heure, ça passe vite. On arrive déjà à la dernière question. Donc, on va se revoir certainement pour une prochaine interview dans 3 ans. Donc, pour la sortie du film, j'imagine. Est-ce que tu as déjà des projets pour l'avenir, justement ?
des projets. Continuer à Radiant au mieux. Moi, mon souci principal, c'est que ça dure au mieux le plus longtemps possible. Donc pour moi, que j'y prenne du plaisir, que les lecteurs y prennent du plaisir et qu'on continue à faire ça ensemble avec les lecteurs d'avancer. Et après, pour le reste, je peux avoir aucune attente concrète, je veux dire. Avant qu'on voit quoi que ce soit sur Radiant, à part des mugs et des baguettes, il va falloir se gratter. Mais en tout cas, par contre, on verra des albums, ça c'est sûr. Ouais.
C'est le plus important. Merci encore à toi, Tony.
Merci à toi.